Nous voici dans la deuxième partie du magazine Okapi Service. Comment lutter contre le commerce informel de bois de valeur en RDC? Nous en parlons avec M. Jean Bosco Wabangawe. Il est président de l'association congolaise des exploitants forestiers artisanaux, ACF en sigle. M. Jean Bosco, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, monsieur.
Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Par SMS, laissez vos commentaires au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans le courriel de nommé service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente et coordonne cette émission sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Julie Fezabongonette à la réalisation et Jean-Claude Siala s'occupe pour sa part de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Mon ton son, notre votre l'heure.
Le français parlons-en. C'est tous les samedis à 13h05 sur Radio Okapi.
Parlons français. Le français, parlons-en.
Le français, parlons-en. Un programme de Radio Okapi coproduit avec l'ambassade de France en RDC et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le français, parlons-en. Une autre façon d'apprendre et de parler correctement le français.
Parlons français. Le français, parlons-en.
Comment lutter contre le commerce informel de bois de valeur en RDC? C'est le thème que nous abordons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Partager une frontière longue de plus de 900 km avec des centaines d'entrées sans un personnel de contrôle, l'Ouganda entretient depuis des années d'importants volumes de commerce informel avec la RDC selon une enquête journalistique publiée en juillet dernier. Un élément clé de ce commerce informel est la contrebande de bois en provenance de la RDC. Après son entrée en Ouganda, le bois est transformé en produits finaux et transformé et exporté sous d'autres cieux. Les résultats de l'enquête révèlent également la complexité de la contrebande en mettant l'accent sur la découverte de certaines personnalités et des entreprises impliquées dans le commerce informel des bois de valeur en RDC. Comment lutter contre le commerce informel des bois de valeur en RDC? C'est le thème que nous abordons avec notre invité. Il s'agit de Jean Bosco Wabangawe. Il est président de l'association congolaise des exploitants forestiers artisanaux, ACFA en sigle. Monsieur Jean Bosco, quel état des lieux faites-vous du commerce des bois de valeur en RDC?
Vraiment, merci beaucoup pour cette invitation. Actuellement, l'état des lieux est plus que catastrophique, surtout dans la partie est de notre pays, avec qui fait frontière avec l'Ouganda, précisément. Il y a un flux de bois d'origine illégale qui traverse les frontières presque très souvent. Voilà les problèmes, et cela constitue un manque à gagner pour l'économie forestière de la RDC. Et voilà, ça c'est un problème qu'il faudrait absolument résoudre dans l'immédiat.
Et vous, au niveau de l'association des exploitants forestiers artisanaux, est-ce que ce commerce illicite a des incidences sur vos activités sur terrain?
Bien sûr, nos membres sont concurrencés par certains étrangers qui traversent la frontière aussi pour venir piller nos ressources. Et nos membres sont concurrencés par les exploitants illégaux. Voilà, ça, il y a un impact négatif vis-à-vis de nos affiliés.
Dites-nous un peu comment ça se passe, ces circuits commerciaux sur le terrain.
Les circuits commerciaux, bon, Il y en a plusieurs circuits.
Est-ce qu'ils s'appuient sur les exploitants artisanaux pour faire la coupe des arbres dans la forêt et pour amener les grumes en dehors du pays? Est-ce qu'ils s'appuient sur les exploitants forestiers artisanaux ou ils viennent avec des permis qui sont
certainement
autorisés?
Certainement, les s'appuient. Bon, voilà, il faudrait commencer par définir qui est exploitant forestier artisanal. Un exploitant forestier artisanal, c'est celui qui est agréé par le gouverneur. Il a un agrément. Il a cette qualité pendant 5 ans, renouvelable bien sûr. Voilà, c'est celui-là qu'on peut appeler exploitant forestier artisanal. Et en dehors de cela, les autres, ce sont les illégaux, ce sont les pirates, voilà.
Et voilà. Qui délivre, donc, qui délivre, quelle instance est qui délivre les permis d'exploitation forestière, au fait?
Bon, au fait, c'est l'exploitation forestière est généralement régie par les gouvernorats. L'agrément est délivré par les gouverneurs. Les permis de coupe délivrés par les gouverneurs aussi. Bien sûr, après avis technique de la coordination provinciale de l'environnement.
Et une fois que vous avez le document, donc cela vous permet d'aller négocier avec les communautés locales pour entrer en forêt et faire la coupe des arbres.
Voilà, et vous commencez à couper les bois. Et vous payez les taxes, et vous êtes en règle. Voilà. Mais malheureusement, je vais vous dire malheureusement, dans les provinces frontalières de notre pays à l'Est, vous trouverez des gouverneurs qui ne facilitent pas la vie au gouvernement central. Les gouverneurs ne signent plus, la majorité des gouverneurs. Par exemple, prenons le cas de Haute-Ouélé. Haute-Ouélé, ça fait des années, ils n'ont jamais signé d'agrément, n'ont jamais signé de permis délivré, de permis de coupe. Les exploitants sont contraints de travailler avec des preuves de paiement. Donc voilà, donc les gouverneurs de province rendent un peu la vie difficile aux exploitants, même à l'exploitation forestière artisanale dans notre pays.
Pouvez-vous nous faire une idée, parce que vous avez évoqué les cas de la province et de la Tchopo, une idée sur ce que peut représenter au fait les coûts d'un arbre qui va être abattu pour être transformé en grume auprès des communautés locales?
Bon, vous savez, le coût de l'arbre, ça ne s'achète pas sur pied. On vous donne une superficie à couper. Voilà, une superficie à couper, mais généralement un arbre mature, prenons le cas d'Aphromosia, un pied d'Aphromosia peut valoir, disons, si on peut en moyenne 4 mètres cubes. Si on prend 4 mètres cubes, bon, les coûts bruts à l'Est, les prix nets sciés, ça peut frôler les 3 200 $.
Les 3 200 $. Ok, d'accord. Mais pensez-vous que la contrebande ou le commerce illicite des grumes, des boîtes valaires en RDC est amplifié par le moratoire qui est en cours, au fait, qui existe encore, qui n'a pas encore été levé concernant l'exploitation forestière?
Bon, le moratoire fait partie aussi de cela, mais en plus, réellement, c'est la non-application des textes. Nous avons des textes qui ne sont pas appliqués sur le terrain. Ça, c'est le grand problème. Voilà.
Monsieur Jean Bosco,
qui rend la vie difficile à l'exploitation forestière artisanale dans notre pays.
Nous vous gardons en ligne.
La non-application des textes.
Oui, Monsieur Jean Bosco, nous rappelons que vous êtes le président de l'Association congolaise des exploitants forestiers artisanaux, ACFA en sigle. Restez en ligne. Dans ces rendez-vous, on donne également la parole à la population. Donc, on va aller au standard pour donner la parole au premier intervenant qui nous appelle depuis la ville de Lubumbashi. Il s'appelle Jérémy. Jérémy, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, M. Sati, bonjour également à l'invité. Je pense que dans ce registre de l'exploitation forestière, c'est là que je me dis il faut peut-être que les gouvernements congolais ouvrent l'œil et les bons, parce que vous savez que il y a des millions de dollars qui échappent vraiment au trésor de l'État. Parce qu'il faut qu'on se dise les réalités en face. Parce que vous savez que il n'y a pas longtemps, on parlait ici, spécialement à Lubumbashi, il y avait, je sais pas, des Chinois qui avaient des problèmes de bois rouge ici.
Oui.
Malheureusement, qui a pris feu quelque part, qui était gardé. Alors nous disons que nous sommes en train de voir qu'il y en a qui viennent ici chez nous au pays. En babouche, mais après quoi, ils deviennent des grands investisseurs et au détriment, donc, ce n'est pas de la population ou soit du pays. Alors, je me dis que, et pourtant, il fallait que l'État congolais, via les ministères de tutelle, puisse s'y investir parce que nous constituons une grande force de renommée mondiale parce que nous sommes un pays solution. Donc, je pense qu'après, je ne sais pas le, nous sommes une deuxième puissance sur le plan forestier mondial. Alors nous disons que malheureusement que nous ne savons pas comment gérer ce secteur pour pouvoir tirer des dividendes, donc c'est-à-dire des moyens qui peuvent revenir au développement de notre pays. Malheureusement, nous sommes en train de faire dilapider l'argent comme ça, qui passe au détriment des autres, parce qu'il y en a qui viennent et qui connaissent le pourquoi. Les gens qui viennent de l'extérieur, ce blanc-là, ou soit ces Chinois qui arrivent ici, ou les autres, ils viennent réduits, mais et malheureusement, après quelques deux mois, trois mois, carrément, ils deviennent des grands actionnaires et sous l'œil impuissant de l'État congolais. C'est là que nous disons que non, l'État congolais doit prendre ses responsabilités pour pouvoir s'y investir et s'attaquer, donc c'est-à-dire contre ces contrebandes qui sont en train de dépouiller notre pays sur tous les plans, et sur le plan économique, parce que ça peut constituer un moyen de revenu, ça peut constituer une source de, donc c'est-à-dire génératrice de revenus pour notre pays, parce que vous savez, lorsqu'on bâtit, on construit, on tisse, donc c'est-à-dire le budget national, nous voyons bien que notre budget est totalement amputé de certains moyens, entre autres, qui pouvaient peut-être entrer dans ce canal. Parce que vous savez, si nous voulons nous en tenir tout le temps à tendre la main de l'extérieur, et pourtant nous avons des moyens, des revenus que nous pouvons nous-mêmes générer ici sur place, qui peuvent peut-être concurrencer sur le plan mondial, si on y met du sérieux, notre pays peut, avec ne fût-ce que les domaines forestiers, nous pouvons arriver, n'est-ce pas, à nous imposer. Si nous avons des petits pays, certains pays bon, qui ne vivent que de ça, mais nous sommes là. Nous avons un domaine aussi puissant qui peut peut-être amener notre pays à définir sa politique aussi, mais nous sommes en train de négliger certains coins. On s'attaque aux minerais et pourtant nous avons aussi l'exploitation forestière qui peuvent nous amener plus, malheureusement, qui est mal utilisée par ces phénomènes de contrebande qui sont en train de dépouiller notre pays et de toute sa substance de vie. Et voilà que notre pays est en train de régresser en termes de développement et pourtant nous pouvions mieux faire avec ce qu'il y a dans ce registre et ça pouvait amener notre pays à décoller. Je pense qu'il faut qu'on commence à mettre des toilettages dans ce secteur, commencer à voir comment, quelles sont les superficies que nous avons. Commencer d'abord à mettre, donc c'est-à-dire le point sous les i, connaître quelles sont les superficies qui doivent être maîtrisées. On ne peut pas laisser ça dans, entre les mains des individus qui gèrent toute une grande forêt comme ça, comme si c'était une boutique où on doit tout le temps dépenser, ou soit abattre des arbres, et on n'a pas la politique de pouvoir reboiser. Et voilà les grands problèmes pour notre pays. Nous pouvons mieux faire dans ce secteur. Si nous y mettons de l'ordre et si nous y mettons de choses correctes, nous pouvons quand même amener notre pays à aller de l'avant, parce que dans les bois, nous avons beaucoup de diversité ici chez nous. Nous pouvons avoir les bois tech qui peuvent entrer dans la, donc c'est-à-dire dans la construction peut-être de bateaux, donc c'est-à-dire de pirogues, de grandes renommées. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de régresser et nous avons des forêts qui peuvent nous amener à aller plus loin et résoudre les problèmes et sur le plan mondial, mais malheureusement, nous sommes un pays riche, mais qui s'ignore au détriment, parce que ceux-là qui viennent de l'extérieur savent comment est-ce que la RDC est très riche. Malheureusement, sa population est totalement pauvre parce que nous ne voulons pas investir comme dans d'autres secteurs. Et voilà pourquoi il y a des retombées néfastes et négatives qui ne profitent pas au peuple congolais.
Merci beaucoup. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que M. Jérémy Mwamba nous appelle. Deuxième auditeur, il appelle de Kindu, il s'appelle Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Monsieur Jean-Claude, est-ce que vous me recevez? Malheureusement, il n'est plus en connexion avec l'antenne. On va tenter de rappeler Monsieur Jean-Claude de la ville de Kindu. Monsieur Jean Bosco, comment réagissez-vous aux commentaires aux propos de notre auditeur de la ville de Lubumbashi?
Oui, effectivement, notre ami.
On est déconnecté, on va essayer, la communication s'est dégradée un tout petit peu avec Monsieur Jean Bosco. Nous rappelons qu'il est le président de l'Association congolaise des exploitants forestiers, artisanaux, ACFA en sigle.
Hein. Le secteur est minimisé. Le pays comme le Gabon, avec il a à peine 23 000 hectares de forêt, mais il en bénéficie plus que nous. Il en bénéficie plus que nous parce qu'il vend plus de 3 millions de mètres cubes l'an. Et nous, nous avons 155 millions d'hectares de forêt. Mais voilà, le secteur bois contribue à peine à moins d'1% dans le budget de l'État, dans le PIB. Donc, c'est vraiment incroyable. Voilà, donc on pouvait faire mieux. On pouvait faire mieux avec le bois, mais malheureusement,
oui, il y a des micro-coupures dans la communication. Donc, vous disiez qu'on peut faire mieux dans le cadre de l'exploitation forestière si les lois étaient respectées dans les secteurs.
Exactement.
On va retourner au standard. On me signale qu'il y a un deuxième auditeur. Il s'appelle Jean-Claude qui intervient depuis la ville de Kindu. Nous sommes là dans la province de Maniema. Monsieur Jean Bosco, gardez l'écoute. Jean-Claude, on vous donne la parole. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, cher ami Tati, et bonjour aussi à l'ensemble de vos auditeurs et bienvenue à Kindu.
Oui, nous parlons de comment lutter contre le commerce informel, hein, des boîtes de valeurs en RDC. Parlez-nous un peu de la réalité au niveau de la province de Maniema concernant ces sujets notamment.
La réalité ici semble être catastrophique, cher ami. Moi, je pense que nous avons fait plusieurs plaidoyers, surtout les gens qui vivent au niveau des Kabambare. Il y a une exploitation illicite et une commercialisation là vraiment pirate avec les gens qui nous viennent de l'Est et qui sont en train d'abattre et de commercialiser ces bois sans pareil. Et c'est une délinquance vraiment et qui se fait. Alors que ces gens nous arrivent des milliers, il y a des cars, des autocars qui sont en train de transporter ces bois-là. Mais il y a les enfants qui étudient à même le sol. Donc il n'y a pas d'infrastructure scolaire, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont. Alors que ces gens nous arrivent avec des milliers de dollars et qui passent vraiment, et ils se mettent en connivence avec les ayants droit ou les autochtones, et puis ils exploitent ça de manière vraiment abusive. Donc la situation Maniema semble être beaucoup plus catastrophique qu'à dire.
Mais est-ce qu'au niveau de la province, au niveau de communauté locale, il n'y a pas une certaine rétribution lorsqu'ils arrivent pour faire la coupe des bois?
C'est infinitésimal. Ils sont en train de tromper ces gens-là. Je vous dis, c'est infinitésimal. Imaginez-vous, ils arrivent, il y a plusieurs camions, et quand ils donnent peut-être 50 000 ou 100 000 à un chef de clan ou à un ayant droit, et puis ils exploitent toute une forêt. Voyez-vous les conséquences, Tati? Donc, moi, je vous donne des exemples. Nous avons écrit même à Madame la Première Ministre, nous avons fait plusieurs plaidoyers, mais ces gens utilisent des fourberies, ils n'arrivent même plus à contacter l'administration forestière au niveau de la province du Maniema. Ils s'arrangent là avec des superviseurs peut-être au niveau des territoires ou au niveau des collectivités. Et parfois, ils n'arrivent même pas à contacter ces gens-là. Ils se disent, non, ils sont des hommes forts, ils sont des maniens. Ils arrivent parfois avec des pièces d'étoffe pour donner aux femmes des chefs de groupement, aux chefs des localités. Et en retour, il n'y a rien. C'est ce que nous sommes en train de plaider. Imaginez-vous avec, par exemple, Era Congo, dans les histoires des marchés carbone au niveau des Bandundu et des Maindom. Si, du moins, nous avons une forêt primaire et nous sommes en train de notre objectif est que nous puissions bénéficier des objectifs 30-30. Mais malheureusement, ces gens-là nous arrivent, ils n'ont aucune notion des codes forestiers, ils font ce qui est bon leur semble, et puis c'est comme des potentats dans des terres conquises. Donc, il n'y a rien comme retour, Tati.
Et cela entretient la pauvreté des communautés locales, c'est ce que vous voulez dire également?
Tout à fait. Il y a une paupérisation à outrance. La population vit dans une misère indescriptible. Imaginez-vous, ce sont les peuples autochtones. Là, quand ils exploitent les forêts, c'est peut-être il y a aussi des produits forestiers non lignés. Mmh. Imaginez-vous les conséquences après 5, 10 ou 20 ans.
Ça qu'est-ce que ces gens vont faire? La famine.
Ils bénéficient parce que à cause de cette pauvreté, ils reçoivent les 50 000, les 100 000 ou les 150 000. Et il faut rentrer ces gens-là qui nous arrivent. Aller dans les ports de Mushimbeki, au niveau de Uvira ou de Kaloun, là où ces bois sont en train de partir. Et puis, ils transitent là-bas, Baraka, et puis ils font la Tanzanie, le Burundi et vers le Rwanda. Et la population ici se paupérise du jour au lendemain. Donc, c'est ça. Moi, je pense qu'à travers les micros de Radio Okapi, j'ai saisi encore cette opportunité parce que nous avons fait plusieurs plaidoyers. Mais malheureusement, nous avons contacté les autorités judiciaires, nous avons contacté plusieurs autorités. Mais alors, c'est comme si notre cri de détresse ne semble être n'est pas écouté par les autorités qui semblent nous chercher. Donc, notre souci à nous est que ça se fait même de manière réglementée et qu'on respecte les codes des forêts et d'autres lois de la République en la matière.
Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kindu que vous intervenez, donc nous le considérons vraiment comme une interpellation concernant les désordres ou l'anarchie qui règne dans le secteur de l'exploitation forestière dans cette partie du pays. Je rappelle que c'est depuis la ville de Kindu que vous intervenez. Monsieur Jean Bosco, comment réagissez-vous aux commentaires de Jean-Claude? On est déconnecté avec M. Jean Afa Gaboua. On va tâcher de rappeler notre invité qui intervient ici à Kinshasa. Nous sommes en train de parler de comment lutter contre le commerce informel des bois de Valère en RDC. L'invité, il est de nouveau en ligne. Il a été déconnecté. Monsieur Jean Bosco, comment réagissez-vous à l'auditeur de Kindu qui a témoigné sur l'anarchie qui règne dans le secteur au niveau de la province de Kindu? Demandez ma pardon.
Mais c'est le même problème, c'est le même problème partout. C'est le problème de la non-application des textes, de la mauvaise gouvernance. Voilà, c'est ce qui mène notre système d'exploitation dans notre pays. Donc la mauvaise gouvernance, ça se résume en mauvaise gouvernance et en non-application de textes. Voilà, c'est tout.
Et il a dit que ces désordres en fait entretiennent la pauvreté auprès des communautés locales dans cette partie du pays. Il y a par exemple les PAP qui n'ont plus au fait des ressources et des produits forestiers non lignés parce que il y a une coupe en désordre, ce qui fait que certaines ressources se font rares.
Oui, oui, il a pleinement raison. Il a pleinement raison. C'est ça.
Et vous, au niveau des
l'image de
oui, je voulais savoir, vous, au niveau de votre association, quelles sont les actions que vous êtes en train de mener pour essayer un peu de faire des plaidoyers efficaces à l'endroit des officiels qui gèrent le secteur?
Mais justement, présentement, nous sommes dans un atelier qui va prendre 5 jours pour l'élaboration de la politique forestière de la RDC. On a commencé aujourd'hui, ça sera jusqu'à vendredi. Nous sommes en plein travail.
Oui, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les grandes difficultés que votre association rencontre sur le terrain?
Bon, voilà. Comme toute association, les difficultés ne manquent jamais. On a un problème de se déployer sur toute l'étendue du pays pour le sensibiliser. De temps en temps, nous faisons quelque chose avec l'appui de nos partenaires et avec nos petits moyens. Voilà, il faudrait parcourir ce sous-continent qui est la RDC pour sensibiliser et montrer aux exploitants qu'il faudrait travailler conformément à la législation. Voilà.
On retourne au standard pour donner la parole cette fois-ci à Ismaël. Ismaël qui intervient, qui au fait nous appelle depuis la ville de Lubumbashi. Ismaël, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Et bonjour Tati. Bonjour à tout le monde.
On est en train de parler de comment lutter contre le commerce illicite ou informel des bois de Valère en RDC. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet?
Bon, je pense que notre ami Djepas Mwamba, qui a intervenu en premier lieu, il a oublié de vous dire tout ce qui s'est passé au régime passé avec la vente du bois rouge. Le crime de bois dont nous parlons en soi, était stocké à la SNCC. Quand j'ai fait les tronçons de Lubumbashi vers Pweto, j'ai vu des réserves de ces bois-là qui ont été coupées et restées sans être même évacuées dans des centres-villes. Je vous dis, c'est une quantité énorme. Bon, quelle a été la mesure qu'on pouvait octroyer aux citoyens congolais, aux citoyens congolais, parce que les expatriés ne peuvent jamais venir et entrer dans nos forêts commencer à couper. Si l'année est ainsi et parviennent à entrer dans nos forêts, c'est-à-dire quelque part, il y a le permis d'exploitation. Bon, tel que Jérémy a dit, ce que je retenais de plus judicieux, c'est que dans des milliers où celui de Bougna qui a intervenu dit dans des milliers dont on exploite les bois, il n'y a aucune mesure, aucune imposition pour tous ceux qui exploitent en tant qu'expatriés. Et pourtant, c'est un domaine où l'État pouvait s'approprier comme il s'en était approprié pour la Gécamine, la Miba et certaines sociétés. Mais qu'est-ce qui lui manque? Aujourd'hui, nous avons des bâtisseurs dont on est en train de former. Ils vont travailler sur quoi? S'ils vont faire de meubles pour le gouvernement. Nous avons la génie militaire. Je pense que les règles, certaines règles pouvaient aider le gouvernement à régulariser ce secteur pourvu que ce qui peut gagner ne puisse pas s'échapper. Tenez, nous avons Brésil qui compte que des forêts. Nous avons des pays qui ont des forêts qui font la fierté. Vous voyez, quand on appréciait la RDC pour l'élimination des gaz à effet de serre, c'est pour ces bois. Mais à force que ces bois sont en train d'être coupés aujourd'hui, sans mesure, sans une restriction, du jour au lendemain, nous allons nous attendre à quoi? Monsieur l'invité pouvait nous spécifier quelles sont les conditions qu'on peut octroyer à une personne pour exploiter nos bois. Et pour les Congolais, et pour les expatriés. Et les permis dont on doit octroyer à un citoyen congolais doit être différent. Et si vous avez signé les cahiers de charges pour la population de l'endroit où vous exploitez, c'est ça ce qui pouvait faire les objectifs en vue de promouvoir nos forêts. C'est que nous plairons ce que nous voyons, parce que nous sommes aux frontières. Nous voyons ce qui se passe. Combien de quantités de bois rouges ont été coupées et d'autres n'étaient même pas acheminées dans des dépôts. Heureusement qu'aujourd'hui, ça aide ceux qui cuisent les briques, dans des fours de briques. C'est là où on utilise maintenant ces bois. Est-ce que c'était l'objectif pour lequel on avait coupé ces bois? Il a fallu réformer ces ministères. Nous avons le ministre de l'Environnement. C'est celui qui est consterné. Il a fallu à ceux qui prennent maintenant de nouvelles mesures. Parce que celui qui était là est parti, ou celui qui était là est là. Il a fallu qu'on renforce un peu des mesures pour promouvoir nos forêts qui exploitent et pour quelles raisons il exploite. Et ces bois qu'il doit exploiter, il doit aller l'étaler où? Et qu'est-ce que la population congolaise bénéficie de cette exploitation? Je pense que si on règle bien ces secteurs, on ne peut pas avoir de grincement dedans. Je termine par dire un peu pour l'interdiction. Bon, c'est une bonne chose à apprécier. Mais de l'autre part, pour les commerçants, c'est une perte énorme. J'ai investi dans ces bois-là et vous avez interdit. Mais l'élever de cette mesure-là va prendre combien de temps? Si cette mesure doit être encore réglementée ou rétrocédée, mais quel sera l'avis du gouvernement et du ministre de l'Environnement, parce que c'est là où nous dépendons. Je pense que si on met un dirigeant qu'il faut, la place qu'il faut, et savoir régler les choses, je ne pense pas qu'on peut avoir des problèmes. Et tel que nous avons les problèmes de bancs dans des écoles, c'est ça là où on pouvait d'abord se baser pour nos exploitations. Nous avons des portes, mais pourtant nous achetons des triplex, des résidus de bois, la poudre de bois, pour un blanc, nous façonnons des triplex et nous en payons cher. Mais pourquoi les Congos ne peuvent pas aussi s'approprier de ces matières? En vie, celui qui est l'invité, il a peine nous dire ce qu'ils peuvent faire les ministres de l'Environnement. Nous avons besoin des industries et des sociétés qui exploitent des bois localement. Et si on fait sortir tout ce dont nous exploitons, je pense que jusqu'à l'arrivée de Jésus, ça sera que de plaintes et de plaintes. Il faut savoir réglementer les choses. Je pense à mon niveau, c'est ça, Tati. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Excellente journée, Monsieur Jérémy. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Monsieur Jean Bosco, Jérémy a tenu à ce que vous puissiez rappeler hein, les conditions qui permettent de procéder ou de devenir un exploitant forestier, artisanal ou industriel, ici en RDC. Est-ce que vous...
Allô?
Monsieur Jean Bosco, vous me recevez?
Oui, bon, maintenant je vous reçois.
Voilà, je voulais savoir. J'ai dit, l'auditeur de Lubumbashi, il a voulu savoir, hein, que vous, il a souhaité que vous puissiez rappeler, au fait, les conditions, pour se lancer dans l'exploitation forestière en RDC.
Bon, les conditions sont les suivantes. Pour le secteur artisanal.
Il y a une
nationalité congolaise.
Mmh.
La nationalité congolaise, il faut avoir la qualité de SSM, identification nationale, tout ça. Vous obtenez votre agrément auprès du gouverneur de la 5 ans de l'exploitant.
Monsieur Jean Bosco, il y a des petites coupures, hein, il y a des micro-coupures dans la communication. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, vous avez dit, il faut être nationalité congolaise. La communication se dégrade avec la ville de Kinshasa. Entre-temps, nous allons retourner au standard pour donner la parole à Thomas. Thomas qui nous appelle depuis la ville de Bounia. Nous sommes là en Ituri. Monsieur Thomas, bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour, monsieur Tati, et bonjour à l'invité, ainsi qu'aux auditeurs de la radio Capi.
Oui, on parle de comment lutter contre le commerce informel, hein, des boîtes valaires en RDC. Qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant ces sujets?
Merci pour la parole nous accorder, monsieur Tati. Je pense, face à ces problèmes-là, je pense, on doit beaucoup se lancer dans ça, surtout pour ce qui est de la déforestation massive. On doit mettre en place le mécanisme qui va permettre à ce qu'on puisse préserver la biodiversité. Parce que lorsqu'il y a ce commerce-là, quelque part là, la biodiversité également a souffre. On doit renforcer. Je ne sais pas s'il y a une loi, par exemple, de renforcement de la législation. Est-ce qu'il y a une loi réglementaire quant à ça? Est-ce que la loi, on doit appliquer quand on sait. Je pense qu'il y a une loi sur la forêt, si régisse la forêt, je pense. Mais est-ce que on met toutes ces problèmes-là en application? Là aussi, c'est vraiment un grand problème. Mais ça, on doit renforcer les contrôles frontières dans les zones forestières pour limiter les transports illégaux de bois. Il faut qu'on puisse renforcer les contrôles. Parce que tout commence de là. Lorsque notre frontière est vraiment poreuse, là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il faut qu'on puisse bien contrôler les gens pour limiter les transports illégaux du bois. Face à ça, j'ai...
Monsieur Thomas?
À poser.
Oui. Déplacez-vous un tout petit peu. La communication s'est dégradée avec Bounia. Déplacez-vous un tout petit peu pour afin d'améliorer la qualité de l'écoute.
Là, ça va?
Oui, nous vous recevons 5 sur 5, allez-y.
J'avais une question à poser. Quels sont les principaux facteurs qui contribuent au commerce informel des bois, des valeurs en RDC? Quels sont les principaux facteurs qui peuvent contribuer au commerce informel des bois en RDC? Quelle est la deuxième question?
Malheureusement... La communication s'est dégradée à nouveau. Oui.
Environnemental, du contre les contrôles. La deuxième question, c'était. Vous m'entendez?
Oui, rappelez la deuxième question. Relancez-nous. Rappelez-nous la deuxième question, monsieur Thomas.
C'est formel de bois. Quel peut être l'impact de l'environnement sur le commerce informel? Et la troisième question, quelles sont les conséquences socio-économiques du commerce informel sur la communauté locale? Quelles peut être les conséquences socio-économiques de ce commerce-là du bois informel sur la communautés locales. Je ne sais pas si vous m'avez suivi.
Monsieur Thomas, excusez-nous, rappelez-nous un peu rapidement les trois questions principales, parce que la communication n'était pas excellente.
La première question était quels sont les facteurs qui contribuent au commerce informel des bois? Quels sont les principaux facteurs qui contribuent ou qui peuvent influencer le commerce des bois? La deuxième question, quel est l'impact environnemental du commerce informel sur l'environnement? L'impact de ces commerces informels-là, surtout dans le domaine de l'environnement. Et la troisième question, quelles sont les conséquences socio-économiques du commerce informel de bois sur le vécu quotidien de la population locale ou les communautés riveraines? C'était ça mes trois petites préoccupations que j'avais à l'éviter.
Merci beaucoup, M. Thomas, et excellente journée à Bounia. Notre auditeur, il s'appelle Emmanuel, il nous rejoint depuis la ville de Kinshasa. Emmanuel, bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Monsieur Emmanuel, vous me recevez?
Oui, je vous reçois, je vous reçois.
On vous donne la parole, allez-y.
Ok, en suivant l'invité, il a dit que le Bénin n'a pas de permis d'exploitation. Il faut savoir pourquoi il ne touche pas cela, le cas de la province de l'Ekinaïbo. Deuxièmement, j'ai une exploitation, mais pas une délai de par la frontière, mais en tout cas, la manière de.
Monsieur Emmanuel, nous vous écoutons à peine. Ce que vous devez faire, essayez un peu de vous déplacer pour améliorer la qualité de l'écoute. La communication n'est pas assez fiable de là où vous êtes. Déplacez-vous un tout petit peu.
Ce que je fais.
Parfait. Maintenant, là où on vous reçoit, allez-y. Rappelez vos préoccupations.
Okay. Ma préoccupation, c'est que l'invité a dit que le gouvernement de province ne signe pas des autorisations. Permis de la coupe. Pourquoi il ne faut pas le déplacer permis de coupe? Pourquoi? Deuxièmement, il s'agit pas de cahier de charge. Quel est le service censé surveiller l'application de ces cahiers de charge là au bénéfice de communautés locales? Parce que j'ai vu, ça s'est fait, ça, rien n'est fait. C'est soit de 24 sur 24 de crime, dans mon village d'ailleurs, le poids sont terminés. Rien trouvé. Ils sont repartis comme ça. Qui est le service qui veut faire appliquer ces cahiers de charges-là?
Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Monsieur Jean Bosco, est-ce que vous me recevez? Vous êtes en ligne?
Je suis en ligne, je vous reçois.
Voilà. L'auditeur de Bounia, Monsieur Thomas, il a voulu savoir, quelles sont les raisons qui font qu'il y ait déploiement du commerce informel des boîtes valaires, surtout à l'est du pays. Et puis, il a voulu savoir l'impact que ces commerces illicites a sur l'environnement. Et puis, sa troisième question, il voulait avoir une idée sur l'incidence socio-économique liée à ces trafics illégaux des boîtes valaires en RDC. À vous la parole.
Oui, la première cause, c'est la mauvaise gouvernance. C'est la mauvaise gouvernance. Et puis, l'extrême pauvreté de la population les pousse à exploiter les bois, une matière, un produit qui est, dont la prospection n'est pas difficile par rapport au produit minier. La porosité de nos frontières, favorise aussi cette exploitation illégale. Vous savez, nous avons 9 frontières, un record. Nous sommes le seul pays, disons les 2 pays au monde qui ont 9 frontières, la RDC et la Chine. Et avec nos 9 frontières, nous avons 155 postes frontaliers. Et sur les 155 postes frontaliers, c'est moins de 10% qui ont des services appropriés pour les exportations. Donc, les services appropriés, vous pouvez compter, il y a Matadi, il y a peut-être Lufu, il y a Kasumbalesa. Donc, c'est trop peu de points de sortie qui ont des services appropriés. Le reste, il n'y a rien. Voilà, donc, tout ça favorise l'illégalité de la sortie illégale de nos bois. Et puis, ça a un impact sur l'environnement. Donc, la coupe illégale impacte sur l'environnement. Il y a la déforestation. Donc, la déforestation à outrance, là. Donc, vous coupez sans respecter les normes. Les normes, or, il y a des normes d'exploitation pour permettre la régénération naturelle des essences. Donc, si la coupe, ça se fait d'une façon anarchique, bon, il n'y aura presque pas la régénération naturelle. Mmh. Voilà l'impact négatif de la coupe illégale sur nos forêts.
Il voulait avoir aussi une idée sur l'incidence économique que ce trafic illégal a sur l'économie nationale.
Mais justement, mmh. voilà, ce sont les autres qui en profitent. Mmh. Ce sont les exportations, par exemple, légales. Les exportations légales fait bénéficier à l'État parce qu'il y a un retour de devises dans les caisses de l'État. Via la banque centrale. Donc, il y a des retours de devises, mais quand les exportations sont illégales, donc, voilà, les conséquences, ça se répercute sur l'économie du pays. Hein? Et personne, les illégaux ne payent pas des taxes, généralement. Mmh. Hein? Généralement, ne payent pas des taxes. Donc, l'État ne profite pas, donc, la communauté ne profite pas.
Il y a monsieur Emmanuel, oui. Mmh. Il y a monsieur Emmanuel, je disais ceci, il y a monsieur Emmanuel de Kinshasa qui a parlé, qui a évoqué les cas de son village Yingende à l'Équateur, où les exploitants forestiers, certains qui viennent là, ils ne respectent pas les cahiers des charges prédéfinis avec les communautés. Ça, c'est aussi une réalité qui affecte le développement des zones forestières en RDC.
Oui, ça c'est vraiment dommage. En principe, les communautés doivent vivre de leur forêt aussi. Ça doit vivre de leur forêt. Ce sont eux les gardiens des forêts. Quoi qu'on dise que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, mmh. mais les gardiens des forêts, ce sont les communautés. Pour démarrer l'exploitation, vous avez signé un cahier des charges, vous avez signé une convention avec les communautés. Si vous ne respectez pas, bon, je crois, dans la plupart des cas, ils vont vous empêcher de continuer à exploiter.
Nous vous gardons en ligne, M. Jean Bosco. Il y a un autre auditeur qui appelle depuis la ville de Kinshasa. Oui, on revient à vous. Gardez l'écoute, M. Jean Bosco. Le temps de donner la parole à l'auditeur qui appelle depuis la ville de Kinshasa. Il s'appelle Yves Laurent. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Marcel Ngomombala. Je vais commencer, Marcel Gombala. Vous allez m'aider. J'ai une prophétie pour le chef de l'État. Ça, vous allez m'aider. Je pense que
s'il vous plaît, Monsieur Yves, ça c'est pas l'objet du sujet. On est en train de parler du commerce illicite des voies de valeur en RDC. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet?
Merci. Je pense que la thématique d'aujourd'hui, c'est vraiment une question vraiment très importante parce que on constate actuellement le trafic illégal du commerce du bois à l'est de la RDC. Je pense que l'État a les monopoles de la coercition. Il revient à l'État de sanctionner tout ce qui se donne à ce genre de pratiques. Parce qu'à un certain moment, si aujourd'hui nous connaissions le réchauffement climatique, c'est suite à la déforestation. Je pense que les populations environnantes je leur demande vraiment de dénoncer ce genre de... Je pense que la contrebande, elle est vraiment organisée par les entreprises locales, mais aussi avec certaines personnalités qui bénéficient de certains pourboires. Donc, je demande au pouvoir public est de sanctionner le récalcitrant. Le mal chez nous, c'est quoi? On parle comme ça, mais à la fin, rien n'est fait. La légèreté caractérise la gestion politique de notre pays. Je pense que si l'on n'est pas conscient de ce que l'on veut devenir à la longue, je pense qu'on assistera toujours à ces dernières choses. La légèreté doit vraiment s'extirper de la gestion politique de notre pays. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre commentaire et votre complément d'information. Il y a un autre auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa. Il s'appelle Paul Malala. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous parlons de comment lutter contre...
Bonjour à l'invité.
Oui, nous parlons de comment lutter contre les commerces informels des bois des Valais en RDC. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet?
Oui, et pour lutter contre les commerces informels des bois des Valais en RDC, moi je voudrais que le nouveau gouvernement de Madame Judith Suminois puisse mettre en place une politique publique, parce qu'il s'agit de politique publique. Ça, il faut se référer aux politologues. Concevoir d'abord une politique publique en matière de bois de valeur en République démocratique du Congo. Et dès lors qu'ils vont mettre cette politique publique en place, ça va nous permettre de pouvoir canaliser, c'est aussi un ressource. Ça va nous permettre de canaliser ces ressources-là, parce que c'est l'argent qui est en train d'échapper à l'État congolais. On prend par exemple dans les territoires de Kabinda, à Bakilemu Kankala par exemple. Je vis à l'époque le PDG, l'ex-PDG de l'AMIBA, en train d'exploiter les bois de valeur de l'autre côté. Depuis qu'il en a exploité, il est parti. Mais je ne sais pas s'il avait obtenu l'autorisation, comme l'invité est en train de le dire maintenant là. Ça, vraiment, je ne sais pas, parce qu'il n'avait pas palpé le papier non plus. Mais je voudrais que, parce que aujourd'hui, si la population paysanne n'arrive pas à couper ces bois-là, il y en a des bois qui grandissent, ça grandit comme ça, ça vieillit, après ça tombe. Mais vous voyez que c'est un manque à gagner pour l'État congolais. Mmh. Donc pour moi, je suggère que Madame Judith Suminois puisse canaliser ses ressources, parce que c'est l'argent qui peut contribuer au budget de l'État.
Oui, mais Monsieur Paulo, s'il vous plaît. Monsieur Paulo, s'il vous plaît. En termes de politique publique, il y a le code forestier qui définit les conditions d'exploitation des forêts. Il y a beaucoup de le secteur, il est réglementé au fait. Il y a des lois et des codes qui existent.
Oui, il y a des lois et des codes qui existent, bien sûr, Monsieur le journaliste. Je voudrais vous dire que les lois ne sont pas respectées ici chez nous au pays. Lorsque vous arrivez au fin fond là-bas, par exemple, dans les villages, je viens de vous citer, Bakilemu Kankala, mais c'est à 90 kilomètres, par exemple, du chef-lieu de la province. Le chef-lieu de la province, c'est au niveau de Kabinda, la ville de Kabinda. Maintenant, quand vous quittez la ville de Kabinda dans la province de Lomami là-bas, vous allez effectuer 90 ou 95 kilomètres. Mais quel est cet agent de l'État qui va, avec quel moyen de déplacement qui va lui permettre d'équiper...
Pour aller superviser, ouais, je comprends.
Oui, pour aller superviser les commerces informels des bois de valeur au niveau de Bakilemu Kankala là-bas. Hein, monsieur le journaliste, allez-y comprendre, l'invité est là. Les lois, nous en avons. Les codes, nous en avons. Mais pour que ça soit appliqué, il faut qu'il y ait quelqu'un là à côté.
Malheureusement, la communication s'est dégradée avec Monsieur Paul Malala, mais on a compris déjà les fonds de sa pensée. Monsieur Jean Bosco, comment réagissez-vous aux commentaires de Paul Malala? Monsieur Jean Bosco, vous êtes en ligne? Malheureusement, on a perdu Monsieur Jean Bosco. Il est le président.
Monsieur Jean Bosco. Non, je suis là.
Ah, parfait. Comment répondez-vous à la réaction de l'auditeur, de Paul Malala?
Voilà. Le tout dernier auditeur qui vient d'intervenir maintenant, il a pleinement raison. On a le code forestier, on a une litanie de textes juridiques, de la législation, mais on n'a jamais eu de politique. La politique forestière en RDC n'existait pas. C'est ça que je vous dis, on est en train de concevoir ça. Nous sommes maintenant à l'atelier. Nous sommes dans le processus pour avoir une politique forestière nationale. Voilà, c'est ça. La politique devait précéder, en fait, elle devait précéder la loi. Mais malheureusement, la loi a précédé la politique. Actuellement, on n'a aucune vision. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons de nos forêts. Nous devons avoir cette vision dans une politique, dans un document de politique que le gouvernement doit valider. Voilà. Mais nous, actuellement, nous sommes en train de préparer cela.
Il y a l'auditeur de Kinshasa, Monsieur Yves Laurent, qui a évoqué les cas des autorités qui sont également impliquées dans l'exploitation illicite ou illégale des bois de valeur en RDC. Ça, c'est une réalité.
Oui, c'est une réalité. Parmi les illégaux dans notre pays, ce sont les autorités. Ce sont les gens qui sont censés protéger la loi, il faut aussi l'exploitation illégale. Hein? Il y a des gouverneurs qui font l'exploitation illégale, il y a tant de gens qui font les autorités du pays font cela. Hein? Donc c'est dommage. Ça c'est vrai.
Est-ce que vous avez un appel pressant à lancer à l'intention des auditeurs qui nous suivent concernant surtout ces commerces illégaux? Il est temps de donner la parole à un dernier auditeur hein, qui appelle Monsieur José Kabemba, qui appelle depuis la ville de Kinshasa. Monsieur Kabemba, à vous la parole, on n'a plus assez de temps rapidement.
Bonjour Monsieur Tony, j'espère que vous allez bien.
Oui.
En fait, je voudrais juste faire une intervention liée à ce que notre confrère vient de parler tout à l'heure. Moi, je pense que premièrement, nous pouvons mettre d'abord la mise en application de nos lois que nous avons dans notre règlement. Il me semble que à des fois, nous prenons d'autres choses que nous ne mettons pas en pratique. Mais je demanderai aux autorités compétentes qui aient la mesure salvatrice de mettre ce qui sont écrits dans des règlements en pratique. C'est ce qui va permettre que tout un chacun qui aura exploité soit au courant de ça. Et puis qu'il y a aussi des sanctions plus sévères sur ça, je pense que c'est ce que je pouvais compléter.
Merci beaucoup, M. José Kabemba. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. M. Jean Bosco, en conclusion, donc il faut mettre les mécanismes d'application des règlements et des lois qui régissent les secteurs afin de mettre fin à ces commerces illicites des bois de valeur, comme l'a suggéré le dernier auditeur.
Exact. Moi, c'est cela, vous avez tout dit. Il faut mettre les mécanismes d'application des textes. On ne peut pas écrire des textes pour les garder dans des tiroirs. Non, on doit les appliquer. Si on les appliquait, voilà, tout pouvait marcher à merveille.
Merci beaucoup, monsieur Jean Bosco Wabangawe. Nous rappelons que vous êtes président de l'association congolaise des exploitants forestiers artisanaux, ACFA en sigle. Merci d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous au Capi Service. Et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Excellente journée.
Merci beaucoup. À vous.
C'est par ici que nous clôturons les magazines Okapi Service que vous a présenté et coordonné Tati Mapoukou sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Julie Fezabongonda a réalisé cette émission et Jean-Claude Siala était à la prise des sons. Le rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau rendez-vous du magazine Okapi Service. Excellente journée.